Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et quelle émission ce soir avec ces fêtes de Hanouka qui sont là pour nous éclairer. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shavua Tov, Hanouka Sameach.
Bonsoir, Shavua Tov et Hanouka Sameach.
Mais d'ailleurs, on y arrive. Mais d'ailleurs, je me pose tout le temps la question tous les ans. Qu'est-ce qu'on se souhaite à Hanouka en fait? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je te souhaite de belles lumières, Moi en général, je dis, je te souhaite un Hanouka avec plein de lumières, mais quel est le... Je connais pour Pessah, je connais évidemment pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit pour Hanouka?
Alors justement, c'est très intéressant parce que là, vous venez de dire Hanouka Sameach, mais le Ben Yishraï, lui, va dire que l'on doit dire, on devrait dire, il n'y a pas d'obligation bien sûr, Chag Sameach. Chag Sameach. Alors Chag Sameach, de bonnes fêtes. Pourtant, a priori, on n'est pas à Yom Tov. Et pourtant, il dit « Chag Sameach ». Le Ben Yishraï fait remarquer quelque chose de très intéressant. « Sameach », c'est trois lettres. Le « Sin », le « Shin », qui est la même lettre, « Mem » et « Chet ». Or, la première lettre, « Sin »,« Shin », c'est « Shabbat ». Le « Mem », c'est « Mila », la circoncision. Et le « Chet » de « Sameach », c'est « Chodesh ». « Chodesh », c'est le « Mois ». Le « Mois », pas le « Mois » des psychanalystes, hein. Le « Mois », M-O-I-S, le « Mois » juif qui scande l'année. Alors, évidemment, on va essayer de comprendre ce qui se joue derrière cela, et ça nous renvoie totalement à l'histoire de Hanouka, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les Yevanim, Yavan, que l'on appelle la Grèce, pour être plus précis, c'est l'Empire Assyro-Grec, eh bien, va interdire justement au peuple d'Israël de pratiquer, et à la fois la Mila, la circoncision, vont interdire la pratique du Shabbat, et vont aussi demander à ce qu'il n'y ait pas de Chodesh, qu'il n'y ait pas de mois juif, que le principe du calendrier juif, tel qu'on va l'expliquer dans quelques instants, ne fonctionne pas. Évidemment, vous comprenez bien que derrière cela, il y a un enjeu extrêmement important qui est en train de se jouer. Et si on réfléchit un tant soit peu, Yavan, l'empire grec, au fond, a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas de tentative génocidaire. On est sur la terre d'Israël, le temple est encore présent, et Yavan va être installé pour très très longtemps sur la terre. Il ne faut pas l'oublier que l'occupation va durer des dizaines, peut-être même aller jusqu'à près de 180 ans, c'est-à-dire que ça va être très très long. Et Yavan, eh bien, va tout simplement vouloir vider le judaïsme de sa substance. On est sur une terre, on a un temple, mais dans ce temple il y a d'autres divinités. Il y a peut-être encore une certaine forme de rituel, mais bon. Et puis, surtout, il faut faire disparaître ces trois notions. Ces trois notions, au fond, sont des notions qui sont liées au concept de Kdusha, c'est-à-dire de sainteté. Nous savons que le terme de Kadosh est associé à la Brit Mila, Shabbat Kodesh, le Shabbat, c'est saint, Elem Moadé Hashem Asher Tikfu Otam Amikra et Kodesh. Voici les fêtes que vous appellerez qui sont Mikra et Kodesh, les appellations saintes. Au fond, la notion de Kedusha qui est présente à l'intérieur de ces trois mitzvot, eh bien, Yavan veut la faire disparaître. C'est quoi la Kedusha au fond? La Kedusha, c'est la capacité de se séparer d'une chose, c'est-à-dire de se mettre à la bonne distance. En effet, le Shabbat est entre autres le moment dans lequel on s'interroge sur la toxicité du travail. Vous allez me dire, mais le travail est nécessaire, c'est vrai, mais il peut devenir toxique s'il est une finalité. Shabbat est là pour nous rappeler que le travail n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen. Et justement, la finalité, c'est ce jour dans lequel on se reconnecte à soi, on se reconnecte aux autres, on se reconnecte à sa spiritualité. La Brit Mila, la circoncision, eh bien, c'est ce moment dans lequel on va inscrire à l'intérieur de nous-mêmes l'idée que il peut y avoir une toxicité dans le monde de la matérialité, dans le monde de la sexualité. dès lors qu'elle représente une fin en soi, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas à l'intérieur de quelque chose de plus vaste. La matérialité est le support à une réalisation, mais n'est pas une finalité. Et puis aussi après, quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est dans le Chodesh, qui est dans le calendrier juif. Car en effet, le calendrier juif, vous savez, eh bien, est fixé par les Chachamim, il est fixé par les sages du peuple d'Israël. Et le Talmud, dans le Talmud de Jérusalem, on explique et on dit que eh bien, c'est ce que fixent les maîtres du peuple juif qui va déterminer le calendrier cosmique. Ele Moadé Hashem Asher Tikrou Otam Be Moadam, dit le verset. Voici les fêtes que vous appellerez vous en leur temps. Et là-bas, le terme Otam est d'effectif, la petite lettre Vav n'y est pas. Et on peut dire Atem, vous. Et les maîtres du Talmud nous disent oui, car c'est vous qui allez, au fond, quelque part intervenir sur le cosmos, c'est vous qui allez dire, eh bien, nous fixons Rosh Chodesh, nous fixons le début du mois à cette date, et donc c'est maintenant véritablement que va être la fête. Et quelque part, comme le Talmud de Jérusalem le développe dans deux, trois endroits, eh bien, le cosmos se réorganise autour de la parole des Chachmei Israël, ce qui est quelque chose qui est évidemment extrêmement profond et qui est un peu bouleversant. Les Chachmei Israël, c'est ceux justement qui réintroduisent Kedushat Hazman, la sainteté du temps, c'est-à-dire, au fond, si nous pouvons intervenir quelque part sur cela, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un univers déterminé, et donc, évidemment, nous arrivons à prendre conscience de l'importance et de la valeur de nos actes dans tout ce qui est notre existence. Kadosh, la notion de sainteté, eh bien ça, c'est ce que Yavan veut faire disparaître, et c'est très intéressant parce que, vous savez, la Kedusha, c'est donc savoir faire attention à la toxicité des choses et savoir donc en être à la bonne distance. Et ce concept-là, au fond, chez qui on le retrouve dans la Torah, et on veut faire un clin d'œil aux parachiotes dans lesquels on se trouve. Ce clin d'œil, eh bien, c'est ce clin d'œil avec justement la paracha dans laquelle nous voyons arriver un personnage qui, lui, va faire aussi preuve de Kedusha. Il s'agit de Yosef. Yosef HaTzadik, Yosef, qui au fond est le seul que l'on appelle tzadik dans la Torah, ne l'oublions jamais. Yosef HaTzadik, c'est celui qui a su justement comprendre la toxicité d'un acte, c'est celui qui, face à la femme de Potiphar, a su résister alors que c'est d'une violence inouïe, qui a su se mettre à la bonne distance, qui a su être dans cette kedusha qui fait de lui celui que l'on définit comme étant tzadik, ce qui est exceptionnel. Allons un tout petit peu plus loin. Vous savez que le lieu de la kedusha, le lieu de la sainteté par excellence dans l'histoire du peuple juif, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, lieu de la Kedusha, par excellence, lieu dans lequel on se reconnecte à la dimension éternelle, lieu dans lequel on se repose la question de cette sainteté qui doit être présente dans tous les moments de notre vie. Et toute la symbolique du Beth Amikdash est là pour nous le rappeler. Eh bien, le Beth Amikdash, il est où? Rappelons-nous d'abord que c'est ce Beth Amikdash que justement les Grecs veulent maintenir, mais avec d'autres divinités, parce que le concept existe. J'ai presque envie de dire qu'au niveau purement esthétique, le Beth Amikdash doit rester, mais ce qui est sa substance première, son message, doit disparaître. Au fond, les Grecs veulent nous faire rentrer dans ce monde du paraître, dans ce monde dans lequel, j'ai envie de dire, l'émotion esthétique est au centre, mais le message n'est plus présent, il est falsifié, voire même il a totalement disparu. Le temple, le Beth Amikdash, il est où? Al Har Tzion Shechamem. Rappelons-nous de ce verset qui nous dit que lorsque le Beth Amikdash est détruit, eh bien, c'est le mont Sion qui est détruit. Le Beth Amikdash, c'est Tzion. Or, de manière très intéressante, la valeur numérique de Tzion est exactement la même que celle de Yosef. Yosef, Tzion, la notion de la Kedusha, qui est là, mais nous allons aller un tout petit peu plus loin. Vous allez faire le constat suivant. Le mot Tzion s'écrit Tzadé Yud Vav Nun. Lorsque vous enlevez le Tzadik de là, la première lettre, qui est la lettre Tzadé, Tzadik, c'est-à-dire lorsque vous enlevez celui qui représente la Kedusha, la sainteté par excellence, et c'est qui ici? C'est Yosef. Eh bien, vous avez juste trois lettres qui restent. Le Yud, le Vav et le Nun. Yud, Vav et Nun, c'est le mot Yavan. C'est le mot qui désigne la Grèce. On a ici un enseignement que je trouve en tout cas bouleversant. C'est que la Torah est en train de nous dire, sache la chose suivante. Nos Chachamim nous éclairent et nous disent, le Beth Amikdash, c'est le lieu de la Kedusha. La Kedusha, c'est quoi ? C'est la capacité de savoir être à la bonne distance, de reconnaître la toxicité éventuelle qui peut être présente dans des choses qui font partie dans notre vie et de savoir les gérer avec intelligence. Celui qui a su le faire de la manière la plus extraordinaire qui soit, c'est Yosef. Yosef qui, en effet, a compris qu'à un moment, répondre présent à ses pulsions, c'était quelque part détruire un futur. Il a su donc se maintenir à la bonne distance, c'est le tzaddik. Le Beth Amikdash, c'est le lieu dans lequel on nous rappelle cette dimension primordiale de la Kedusha. La Kedusha, comme on l'a vu, elle existe à travers la relation au Shabbat, à la Mila et au Moi. Cette réflexion à voir sur la toxicité potentielle du monde du travail si on en fait une finalité. Le fait que le déterminisme peut nous enfermer, nous empêcher de penser qu'on peut construire notre histoire. Cette notion de la Brit Mila qui nous rappelle la toxicité qui peut être présente dans un monde où le matériel deviendrait matérialiste et quelque part nous enfermerait. Et donc, c'est à ce moment-là où justement arrive Hanouka. C'est justement ça le message de Hanouka, de ces lumières qui vont s'allumer, de ces bougies qui vont nous éclairer, nous réapprendre à voir et à comprendre véritablement les choses. Et c'est vrai que ça va encore plus loin. Il y a un texte dans le Talmud qui est assez hallucinant, qui nous dit « Hadoudaim natnu reach, val petach, je crois battez-nous ce mari. » On nous fait, dans ce verset-là, on nous parle et on nous dit, on fait allusion à Yosef, qui s'est retrouvé dans le puits, complètement jeté. Et juste à côté de cela, eh bien, le maître qui donne cet enseignement nous donne un autre enseignement sur les lumières de Hanouka. Sans développer trop ce texte du Talmud, nous avons de manière assez impressionnante dans le Talmud un maître qui va lier, et à la fois, l'histoire de Yosef qui est dans le puits, qui est le début de son épopée, donc de son message, et l'histoire de Hanouka, comme nous venons de le voir, eh bien, elles sont intimement liées. À nous de savoir en tirer les enseignements et quelle est la meilleure manière, et je conclurai là-dessus, pour savoir véritablement se nourrir de ces enseignements. Ce que les Grecs veulent aussi faire disparaître, c'est la Torah. Pourtant, ils la traduisent en grec, la Bible des Septante. Mais lorsque vous traduisez la Torah en grec, elle devient un livre comme les autres. Elle fait partie de l'Iliade. Elle est un livre de pensée comme tant d'autres, un livre de spiritualité comme tant d'autres. Et donc, on va la lire de la même manière en lui ôtant son caractère divin. Alors que justement, eh bien, on va faire de cette Torah quelque chose d'essentiel parce que c'est elle qui nous nourrit. Qu'est-ce qu'on va faire les soirs de Hanouka dans les familles ? On va offrir des cadeaux aux enfants. On va leur offrir des jouets. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce que c'est l'époque des jouets ? Pas du tout. Un jouet, ça s'appelle Shashua en hébreu. Un jouet a ceci de particulier, c'est que quand vous jouez, eh bien vous avez du plaisir, vous ne produisez rien. Le fait de jouer nourrit l'enfant. Regardez l'enfant, il construit, il déconstruit, il a sa petite voiture, il est heureux, il est content. Parce que l'acte de jouer lui procure, pardonnez-moi, un immense bonheur. Eh bien rappelons-nous, « Loulé Torah trasha ashuay azavadeti boni », ce texte qui nous dit « Si ce n'était la Torah, qui est comme un jeu pour moi, J-E-U », eh bien, ô combien la vie serait fade. La Torah est aussi un jeu, parce que son étude en tant que telle nous nourrit, nous procure quelque chose d'exceptionnel. Donc, vous réalisez que quand on va offrir ces jeux à nos enfants, ou les offrandes, surtout de ceux qui n'ont pas, et ne l'oublions pas, et je crois que, grâce à Dieu, beaucoup le savent et le font, eh bien, nous réalisons que nous devons aussi, nous-mêmes, pénétrer l'univers de cet autre jeu, qui est celui de l'étude de la Torah, qui va nous nourrir et qui est la meilleure réponse, au fond, à ce que les Grecs ont voulu imposer au peuple d'Israël.
Rav Eli Lemel, en vous écoutant, je me disais que, étonnamment, aujourd'hui aussi, on a des gens qui veulent interdire la Mila. C'est incroyable, mais c'est fou que, voilà, on arrive, on se dit que les choses, que le monde a évolué et... Aujourd'hui, il y a des mouvements en Europe très sérieux, des députés qui veulent interdire la circoncision.
Mais parce que justement, je crois que vous utilisez le terme qu'il ne faut pas utiliser. Le monde n'évolue pas. Le monde est en mouvement. La problématique, c'est de savoir quelle est la direction de ce mouvement.
Bravo. Bravo. Et je me permettrai alors de dire, et en plus, il paraît que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a attendu un an pour décider que Hanouka c'était un miracle, parce qu'il faut voir que ça revient. Mais de tout, je sais. Ravik Lemel, je vous remercie. Cher Christophe. Et alors, j'ai bien entendu. Et Chag Sameach.
Shavua Tov, Hanouka Sameach et Chag Sameach.
Plein de bonnes choses. Rav Mordechai Biton nous a rejoint. Bonsoir Rav Mordechai, vous qui êtes à Jérusalem.
Shavuot Tov, Chag Sameach et Hanouka Sameach, parce qu'on a se parle l'avant-veille de la veille de Hanouka. Donc Hanouka Sameach à tout le monde.
Mais oui, on a des belles choses à se souhaiter là, plein de lumière dans nos maisons, à vous à Jérusalem, à nous ici en France, à tous ceux qui nous écoutent sur internet ailleurs. Rav Mordechai Biton, vous voulez faire un peu de chassidoute ce soir avec nous? Et essayer de voir un peu le lien qu'il y a entre la fête de Hanouka et Yosef. Pourquoi vous avez fait ce choix ce soir pour nous parler? Parce que l'on sait que les parachiotes de notre Torah sont toujours liés aux fêtes qui leur correspondent plus ou moins dans le calendrier et inversement. C'est jamais un hasard si la paracha de la semaine tombe à ce moment-là par rapport à la fête, que cette fois c'est Hanouka, mais on a la même chose pour toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Pessah, etc. Alors, voilà le thème que vous avez choisi d'aborder avec nous ce soir.
Alors, absolument, parce qu'en fait ici, dans les parachas que nous lisons, donc nous avons lu Vayeshev, après ce Shabbat, nous aurons lu Miketz, et on va aller sur Vayigash, trois parachas qui nous parlent de Yosef. Alors, essayons de cerner un petit peu le personnage de Yosef. Le personnage de Yosef, c'est un personnage qui est détesté de ses frères, mais surtout incompris de ses frères. Ils disent, ses frères, « Amalor timlor alenu, tu veux régner sur nous ?» Mais on sait déjà que le roi viendra de Yehuda, et que plus tard, nous savons de manière prophétique, que le peuple juif naîtra et que le Messie, le Machiar, se dévoilera de la tribu de Yehuda. Donc à quoi tu sers, toi, Yosef? Tu apparais ici, et tu es un personnage, entre guillemets, incongru. Tu étais jeune, tu te maquillais, tu t'arrangeais les cheveux, et on ne voyait pas en toi le tzaddik, le juste que l'on va voir plus tard quand tu vas passer l'épisode égyptien, résister aux séductions de la femme de Potiphar, devenir le vice-roi d'Égypte et rester ce qu'on appelle un tzaddik yesod olam. Si tu vas être un tzaddik, en fait tu es un vrai tzaddik, mais cette dimension de la tzidkout, elle n'est pas acceptée et acceptable au départ dans la manière dont tu apparais dans l'histoire. C'est-à-dire que les frères disent à Yosef, au départ, si, à la fin de la vie, ils vont dire à Yosef, tu as été un tzaddik, mais au départ, tel que tu étais, tu prenais la Torah de Yaakov, notre père, mais tu te maquillais, tu te comportais comme ça dans le monde, et on ne pouvait pas comprendre ce que tu voulais faire. Avec le temps, Vaïgash et Laviouda, dans la paracha de Vaïgash, on va voir finalement que Yehuda et Yosef s'approchent l'un de l'autre, ce qui veut dire que prophétiquement, les deux dimensions du Messie sortant de David et du Messie sortant de Yosef, vont se rapprocher l'une et l'autre. Et il y a là ici une dimension qui est une dimension fondamentale et qui concerne toute l'histoire du peuple juif. Tout au long de l'histoire du peuple juif sont apparus des tzadikim, des justes, que personne n'a compris de leur vivant. Par exemple, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui est mort à 40 ans, a été combattu par tous les grands de son époque parce qu'il est apparu après le faux Messie, Shabtai Zvi. Et à la fin, aujourd'hui finalement, dans toutes les yeshivotes du monde, on étudie les textes de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Le Sentier des Justes, le Dvudot Hashem, etc. On étudie ces livres, ce sont des livres de base. C'est la même chose pour la chassidoute. Lorsque la chassidoute, le chassidisme est apparu, le Gaon de Vilna s'est opposé très durement. Et j'ai ici sous les yeux un texte qui est rapporté par le Kovetz Mahamarim, donc Rav Elchanan Wasserman était l'élève du Chafetz Chaim. Et regardez ce qu'il dit au nom du Chafetz Chaim, c'est absolument extraordinaire. Il dit, je vous le dis directement en français, c'est une parole du Chafetz Chaim, le saint Chafetz Chaim, qui est le Sabba Kadisha de tout le peuple juif, mais qui était issu du monde lituanien. Il dit la chose suivante, lorsque quelque chose apparaît dans notre monde, et que cette chose est très kadosh et très sainte, et que les forces du mal vont s'y opposer, alors dans le ciel, on le fait toujours apparaître de manière biscornue, on dirait en français. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière qu'on a, quand on habille cette chose qui est sainte dans des choses qui ont l'air roulines, qui ont l'air profanes, c'est la seule manière de tromper les forces du mal. Et ensuite, après, petit à petit, les étincelles de sainteté se dévoilent. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Hafetz Chaim, au départ, le Gaon de Vilna s'est opposé à la Chassidoute, mais aujourd'hui, dans nos générations, il parle avant la Seconde Guerre mondiale, dans nos générations, on voit à quel point la Chassidoute était nécessaire pour le peuple juif, à combien il en avait besoin. Et encore plus dans notre génération aujourd'hui, où on étudie le Tanya, encore plus dans nos générations aujourd'hui, où on voit la Chassidoute Breslev, on voit que à quel point le peuple juif a besoin de la chassidoute et finalement a besoin de cette synthèse entre tous les courants issus de l'histoire du peuple juif. Parce que finalement, et c'est ça le personnage de Yosef, le personnage de Yosef, c'est un personnage qui est incompris au départ, mais qui à la fin est indispensable pour les frères. Il est indispensable pour le peuple juif. La chassidoute, lorsqu'elle apparaît, elle est indispensable, elle n'est pas vécue comme indispensable, elle est incomprise, mais elle devient indispensable. Rabbi Choy Moshe Lelout Sato, le Ramchal, la même chose, il est incompris, mais il devient indispensable. Et c'est la dimension de ce qu'on appelle le tzaddik emet, le vrai tzaddik. Regardez par exemple même Rav Ovadia Yosef, un contemporain, il a été très très mal compris par le monde lituanien. Eh bien, au moment où il disparaît, des millions de gens vont à son enterrement, et aujourd'hui, tout le monde est obligé de considérer que c'est une référence. C'est ce qu'on appelle le tzaddik emet. Cette dimension, finalement, d'une certaine sainteté qui apparaît dans le peuple juif, et qui, au départ, ne peut pas être comprise, et qui, avec le temps, s'impose et est comprise comme étant quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est, finalement, le secret de l'unité du peuple juif. Ça a un rapport aussi avec Hanouka, puisque vous savez qu'à Hanouka, les Sfaradim font comme le décisionnaire Ashkenaz de Tosfot, ils allument une menorah par maison, alors que les Ashkenazim font comme le décisionnaire Sfarad, qui est le Rambam Maïmonide, et ils allument une menorah par personne. Et c'est donc, il y a ici une espèce de transversalité qui est une figure d'unité. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous est dit ici, ce message qui nous est dit au travers de Yosef et au travers du Tzadik Emet, ce message qui nous est dit au travers donc, de Hanouka, c'est que le peuple juif, parfois, a du mal à faire son chemin vers l'unité. Mais ce chemin, il finira par le faire. Il est obligé de le faire. Et c'est vrai que parfois, des choses apparaissent de manière incompréhensible ou biscornue, mais en fait, c'est un habillage dans le ciel, nous dit le Hafetz Chaim, qui est un saint, il sait de quoi il parle. Dans le ciel, on sait que ces choses saintes, elles sont habillées dans des choses qui ont l'air en apparence profanes. Quand la chassidoute apparaît, on a l'impression qu'on va réunir des gens pour chanter, boire et s'approcher de l'extatique du Créateur, mais pas du tout. Petit à petit, on va découvrir à quel point cette mystique et ce lien joyeux, mystique et ce lien charnel avec les mitzvot est un lien tout à fait fondamental. On le voit bien aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y ait des dizaines de milliers de gens aujourd'hui qui vont sur le tombeau de Rabbi Chaim, de Rabbi Nachman de Breslev, même quand, alors qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est pas pour rien aujourd'hui que des millions de gens vont sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou des millions de gens se rendent sur le tombeau de Baba Salé, toutes tendances confondues, parce que tout le monde comprend qu'il y a dans chaque, finalement, dans chaque manifestation d'une certaine forme d'attachement à la Torah, il y a ici quelque chose qui émerge, il y a une vérité qui émerge avec le temps, et qui crée l'unité. Et c'est ça finalement le message de Hanouka, et c'est le message qui transpire de Yosef, et c'est ce lien qu'on peut établir qui me paraît tout à fait sublime et vraiment fondamental.
Et je vais vous montrer que j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites, parce que je vais ressortir une phrase, un enseignement que vous nous aviez donné il y a de cela quelques temps. Vous avez dit, un maître, il apporte quelque chose de nouveau. Il apporte sa propre pensée, sa propre personnalité. Ça prend plusieurs générations, je parle sous votre contrôle puisque je vous cite. Mais vous avez dit, ça prend plusieurs générations. Si on voit que ça tient trois générations, à ce moment-là, on sait que c'est émettre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont apporté des choses révolutionnaires, mais ça n'a pas tenu. Quand on voit effectivement Rav Ovadia Yosef, mais il y en a d'autres, on pourrait parler aussi de la façon dont a été critiqué le Rabbi de Lubavitch, par exemple. Beaucoup de maîtres... Rambam en personne a souffert.
Rambam en personne, bien sûr.
Rambam a souffert, mais il a dit « J'ai jamais eu une seconde de paix pour moi. » Et c'est les Chachamim qui étaient en guerre contre lui. Ce qui vient, il fait quelque chose de révolutionnaire. Donc voilà, je me souviens de ça, vous avez dit, il faut s'apprendre.
Moi, j'avais cité au nom de Rav Yoram Abergel. Rav Yoram Abergel est un rav qui est décédé il y a un peu moins d'une quinzaine d'années maintenant. son fils Rav Israël Abergel fait beaucoup de cours ici en Israël, c'est un Rav qui est très, très, très connu, et il explique ça, cette dimension du Tzadik Emet. Le Tzadik Emet est quelqu'un dont la vérité n'est pas acceptée tout de suite. Et c'est la marque de fabrique du Tzadik Emet. C'est que c'est quelqu'un qui est kol kulo, qui est entièrement sainteté, crainte du ciel, et Torah, et vérité, mais il dit des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Elles sont habillées dans des concepts et dans des discours qui apparaissent complètement incompréhensibles et inacceptables, et qui, avec le temps, eh bien, laissent émerger la vérité intrinsèque qu'est la leur. Quand Baba Salé disait, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, ce que je vais dire là maintenant, mais il l'a dit, dans le ciel, l'autorité suprême, c'est le Rabbi Lubavitch. Je ne suis pas Chabad, mais quand il le dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais simplement qu'un homme saint a dit ça au sujet d'un autre homme saint. D'accord ? Et que maintenant, quand il y a des discussions entre Rav Shach et le Rabbi Lubavitch, ce sont des discussions qui nous échappent complètement. On est ici dans des dimensions qui nous échappent complètement, mais avec le temps, on voit qu'il y a ici une Torah qui est là et qui fait des fruits. Qui fait des fruits et qui est une Torah aujourd'hui, qui est une Torah ambassadrice du peuple juif dans le monde entier. Et en même temps, on voit que le monde lituanien continue à développer les yeshivot, on voit que le monde chassidique continue de développer des yeshivot, on voit que le monde sfarad se développe complètement. Donc on voit bien qu'il y avait ici, au départ, des choses qui se sont confrontées, il y a eu des confrontations très violentes, mais avec le temps, on voit qu'il y a des synthèses, on voit que tout ça est là, et finalement participe à la richesse, et à la diversité, et à l'unité du peuple juif. Donc c'est sublime. C'est le message d'ailleurs qui explique très, très longuement et dans profondeur Rav Yoram Abergel et son fils Rav Israël Abergel dans tous les cours qu'il fait, mais il n'est pas le seul.
On va faire quelque chose de très beau. On va profiter des bougies pour réfléchir, pour méditer. Tiens, voilà, ça c'est très chassidique. Pour méditer sur les belles choses que vous avez dit et essayer de s'en pénétrer. Je vous remercie. Rav Mordechai Biton, vous qui êtes à Jérusalem, bonsoir à vous et Chag Sameach.
Chag Sameach et Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shavuot Tov, Chanukah Sameach.
Bonsoir Shavuot Tov et Chanukah Sameach.
Rav Gueh, alors on va continuer notre émission spéciale Hanouka, et alors vous allez nous surprendre, parce que, à la limite, moi quand vous m'avez dit j'ai envie de parler de ça, je me suis dit non, c'est pas vrai. Eh bien si, vous voulez nous parler de la Coupe du Monde, si, et vous y voyez un lien avec Hanouka, comme une métaphore, en tout cas comme un enseignement. Alors on vous écoute, on est très concentré pour savoir ce que vous avez à nous dire sur ce sujet.
Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant, mais je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe avec le Rav Shalom Shvadron. Le Rav, en fait, il a un élève qui s'absente depuis quelques jours de la yeshiva. Et on lui dit que cet élève est malade. Il a quelques soupçons entre nous et il se dit « je vais quand même aller lui rendre visite ». S'il est, paraît-il, malade, c'est une mitzvah de Bikur Cholim, de visiter des malades. Donc il se rend au domicile de l'élève. Et l'élève, clairement, lorsqu'il lui ouvre la porte, il a l'air très gêné. Alors, le Rav dit « Tout va bien, est-ce que je peux rentrer pour discuter, pour parler avec toi de ta maladie, de ta convalescence ?» Alors l'élève dit « Non, Rav, ne vous dérangez pas, je vais de mieux en mieux, ça ira de mieux en mieux, j'arrive bientôt à la yeshiva, ne vous en faites pas, merci beaucoup d'être venu. » En clair, il voudrait écourter la visite, il est très gêné. Donc le Rav insiste lourdement. Il s'installe dans le salon manger, dans le salon, et il commence à discuter avec son élève. Il comprend très vite que bon, il y a pas vraiment de maladie, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement, l'élève s'est absenté parce qu'il voulait suivre la Coupe du Monde. Il est rentré chez lui pour pouvoir regarder la télé et regarder les différents matchs. Alors, le Rav lui dit « Ah bon, et c'est quand que tu rentres ?» Il lui dit « Dimanche soir, je suis à la yeshiva. C'est la finale dimanche, et bien juste après, vous me verrez à la yeshiva, pas de souci, je retourne. » Alors bizarrement, la réaction du Rav est vraiment étonnante. Il dit « Mais explique-moi comment on joue au foot. » Et le Rav n'est pas du tout au courant, il n'a jamais joué, et il n'a jamais vu de match de foot, donc il s'intéresse. Il a l'air de s'intéresser au foot. Et alors il lui demande, alors voilà, il lui explique, il y a 11 dans une équipe, 11 dans une autre équipe. Et puis voilà, il y a un but, il y a un gardien de but. Vous connaissez, vous, très bien ce que c'est qu'un match de foot. Je ne vais pas vous l'expliquer. Et le Rav, il pose des questions qui paraissent un peu, entre nous, un peu bêtes. Il demande, mais expliquez-moi, c'est quoi? Tout le monde se bat pour un ballon? Ben, on n'a qu'à donner un ballon à chacun et puis tout le monde sera content. Alors l'élève dit, mais attendez, Rav, franchement, et ici, tout le sujet, c'est justement qu'il y a un ballon et que tout le monde veut prendre le ballon et qu'il y a 11 contre 11 et que voilà. Il dit, mais pourquoi il y a un gardien de but? Ben, évidemment, parce que ben, il dit, si c'est un problème de mettre le ballon dans le but, ben, on n'a qu'à le mettre dans le but sans qu'il y ait de gardien de but. Et monsieur le rabbin, vous ne comprenez pas, c'est tout le jeu, c'est ça, c'est que c'est difficile, c'est qu'il y a un gardien but, il y a 11 dans l'équipe, bref, il y a plein de difficultés à surmonter pour pouvoir mettre le ballon dans les filets. Alors le rabbin dit, ah, tout le sujet, tout l'intérêt du jeu, c'est justement qu'il y a un obstacle et qu'il faut le surmonter. Mais écoute bien ce que je te dis. Rentre à la yeshiva tout de suite. Pourquoi? Parce que ce que tu as proposé, c'est de rentrer dimanche après la finale. Mais lorsque la finale sera passée, il n'y a aucune difficulté à rentrer à la yeshiva. Tu auras marqué un but sans qu'il y ait deux gardiens de but, ni qu'il y ait 11 dans l'équipe en face. Tu auras marqué des buts, tout simplement, avec un ballon et des filets, c'est tout. Et quel jeu c'est? Ça ne vaut rien. Ça n'a aucun sens. Hachem, il attend de nous que l'on marque des buts lorsque justement c'est difficile, parce qu'il y a une opposition forte. C'est là la force, c'est là la réalisation de soi, lorsqu'on arrive à surmonter les difficultés. Donc voilà un petit peu une première image de métaphore de ce que représente un match de foot. C'est marqué lorsque c'est difficile en face. Eh bien, il se trouve que cette année, c'est quand même assez rare, hein, puisqu'en général, d'abord, les tournois de Coupe du Monde se font en juin, juillet, plutôt juillet, juin, juillet, c'est-à-dire en été, et là, c'est la première fois que c'est en hiver. Ensuite, que ça tombe la finale juste au moment où on va allumer les bougies de Hanouka, la première bougie de Hanouka. En plus, c'est la France qui joue. Enfin, il y a trop de choses qui doivent nous faire réfléchir sur le lien entre la finale et le match de foot en général et Hanouka. Hanouka, c'est quoi? En tout cas, si on le sait très bien, c'est une poignée d'individus qui ont eu le courage de s'opposer à une armée entière d'ennemis, les Grecs. Ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont non seulement débarrassé le peuple juif de leurs ennemis, mais ils ont marqué un but. Et le but, c'est quoi? C'est qu'ils ont dévoilé, démontré une dimension nouvelle que les Juifs n'avaient pas avant. Il faut bien comprendre que Hanouka, ce n'est pas juste fêter la fin de l'emprise de la civilisation grecque sur le peuple juif, ce n'est pas la fin de l'hellénisation, c'est tout simplement une découverte d'une dimension nouvelle du judaïsme. Alors, on savait tous qu'il y a toujours eu la Torah chez Valvé, la Torah orale a toujours existé, elle a été transmise à Moshe, comme son nom l'indique, oralement, mais l'éclat de la loi orale, la discussion, les discussions extrêmement nombreuses qui donnent lieu justement à un investissement, à une bataille rangée entre une équipe et l'autre, l'équipe de ceux qui disent « moutard, c'est permis », puis l'équipe de ceux qui disent « assour », et puis chacun apporte des preuves, l'autre apporte des contre-preuves, cette disputation infinie de la Gemara, des Rishonim, des Acharonim, bref, de génération en génération, les discussions vont en se multipliant, mais pas des disputes, des discussions, parce qu'il faut que chacun marque un but. C'est quoi? C'est qu'il dévoile sur terre la halakha, la loi divine. Et cela, ça a donné au peuple juif un élan incroyable, une force incroyable, alors qu'il existait beaucoup moins avant. Avant, il n'y avait qu'un seul rav, et il était reconnu par tous. C'est sympathique, dans le cas, c'est extraordinaire d'avoir un seul rav qui est reconnu par tous, mais quelque part, le fait d'avoir ces discussions animées que l'on voit dans les yeshivas, dans les kollelim, dans les endroits d'études, dans le monde entier, révèle, marque tout simplement la vitalité du peuple juif. Je vous invite vraiment à tous les autres, nos auditeurs, lorsque vous visitez Israël, ne visitez pas seulement le Kotel. Évidemment, il faut aller voir le Kotel. N'allez pas seulement voir les musées. Les musées, c'est quelque chose qui est c'est mort, c'est le passé. Aller dans un yeshiva, un grand yeshiva, rentrer voir des centaines d'élèves, écouter le brouhaha le cri, les disputes incroyables entre les différents élèves qui chacun défend sa compréhension du texte. Et là, vous verrez, Am Yisrael Chai Vekayam, la Torah est toujours parmi nous, elle est vivante, et c'est tout le temps des buts à mettre, parce qu'en face, il y a une opposition, et il faut montrer qu'effectivement, on a les arguments, etc. Et ce développement de la Torah orale, Bet Hillel, Bet Shammai, tout le monde a entendu parler de Hillel et de Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai, les deux grandes maisons de grands Tanaïm qui se disputent dans plein de domaines, des disputes évidemment de Shem Shammai pour comprendre la volonté d'Hachem, eh bien c'est à partir de cet instant, de ce moment de Hanouka, que les choses sont apparues et nous donnent la force de résister, de trouver des forces, de traverser l'exil si sombre et si long pour pouvoir un jour espérer que le peuple juif, et c'est le cas, garde sa vitalité, son enthousiasme, sa force incroyable grâce à ce thermos, je devrais dire ça, le thermos de Mahamad Arsinaï. Mahamad Arsinaï, c'était un moment de grande chaleur spirituelle, un moment de grande force spirituelle, et le thermos qui nous permet de garder cette chaleur, cette force du Arsinaï, c'est cette Torah Shebaalpé, cette Torah orale, telle qu'elle est étudiée aujourd'hui, depuis des années, transmise de génération en génération, et nous donne finalement ces jeunes et ces moins jeunes qui trouvent dans la Torah tous les jours, une vitalité, une force. Et pour des personnes âgées, comme s'ils étaient des jeunes hommes, ils sont là en train de réfléchir, de penser, d'imaginer des solutions pour comprendre ce que Rabbi a dit, pourquoi Rabbi n'est pas d'accord, et pourquoi Rashi dit quelque chose alors que toi, soit dit le contraire, pourquoi le Rambam n'est pas d'accord avec le Roche, et le Roche n'est pas d'accord avec le Rashba, etc., etc. Tout cela, c'est la beauté de Hanouka, grâce à quoi ? À deux quelques personnes qui ont décidé d'aller affronter l'ennemi grec qui voulait mettre la Torah sur le même pied d'égalité avec les autres connaissances, les autres sciences. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? Non, les autres sciences s'apprennent dans des bibliothèques silencieuses où dès que vous tournez une page, tout le monde dit « chut » parce que vous avez fait un peu de bruit. Et lorsque vous rentrez dans une yeshiva, vous entendez un brouhaha incroyable. Vous dites « mais comment c'est possible d'étudier dans ces conditions ?» Mais justement, c'est ça la différence. Dans un cas, la connaissance est une connaissance purement intellectuelle, et l'autre, c'est une connaissance qui transcende l'individu, qui le transforme, qui rend l'homme de plus en plus impliqué par ce qui est sa connaissance, qui implique sa vie, son quotidien, mais tout son être vibre dans son étude, et c'est ça qui est notre fierté, et surtout le terme de ce qui nous permet de préserver l'authenticité, la puissance du message qui nous a été transmis au Har Sinaï. Shavua Tov et une très très bonne fête de Hanouka à nous tous.
Alors moi, Rav Guéhi, au nom de tous les auditeurs de Radio Shalom, je vous souhaite une belle fête de Hanouka avec pleine de lumière et de lumière nourrissante. Puisque vous faisiez remarquer que le tournoi du mondial tombait à un moment qui était inattendu, le fait que, pour le coup c'est attendu, mais le fait que Hanouka tombe à un moment où il fait froid, je trouve toujours, moi, avec mes petits moyens, que c'est pas... votre érudition, qu'il y a quelque chose de volontaire, qui fasse qu'on rentre chez nous comme ça et on regarde, on profite de notre foyer avec ces lumières qui, je le répète, sont très nourrissantes.
Tout à fait, c'est des grands moments de convivialité, de renforcement des liens familiaux, de joie avec les enfants. C'est un moment d'éducation très important, un grand moment d'éducation, de transmission. Mais sachons bien donner le point véritable de Hanouka. Hanouka, c'est la force spirituelle qui prend le dessus sur la force matérielle, et c'est une permanence dans le peuple juif que c'est toujours notre spiritualité qui a été le secret de notre pérennité.
Rav Guéhi, je vous remercie. Shavua Tov et Hanouka Sameach.
Shavua Tov. Hanouka Sameach.
Cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter Shavua Tov. Et de très très belles fêtes de Hanouka en famille, comme vient de dire Rav Guéhi. Je sais ce que je souhaite à tout le monde. Et pour ceux qui savent que d'autres sont isolés, bah, c'est l'occasion de donner un coup de fil. Maintenant, c'est mois de Shabbat, on peut. Voilà, de passer de bonnes fêtes. Hanouka Sameach. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy bay, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy bay.